Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Les clés d'une vie, celle de mon invité. En passant de la réflexion à la narration, le philosophe que vous êtes est en droit de s'interroger. L'avenir de l'homme, c'est la femme, a dit Aragon. Votre avenir au théâtre, est-ce aussi la femme ou plus exactement les dames? Bonjour Raphaël Entoven.
Bonjour Jacques, heureux d'être avec vous.
Et réciproquement, donc ce livre, L'École des Dames, qui est une pièce de théâtre, on va en parler tout à l'heure aux éditions de l'Observatoire, c'est votre nouvelle activité, mais vous avez eu beaucoup d'autres activités, et on va en parler à travers des dates clés, comme tous les jours dans Les Clés d'une Vie sur Sud Radio. Première date que j'ai repérée, 3 décembre 1994, c'est une émission de télévision où vous êtes avec Chloé Roy, une collégienne, et c'est votre première télé sur Henri IV.
C'est vrai, il y a François Bayrou, Max Gallo, Philippe Tesson et Patricia Martin.
Exactement.
Et je m'en souviens encore, j'étais en Cannes à ce moment-là, et Patricia Martin d'ailleurs avait, en présentant les invités, m'avait dit « Voilà, vous serez bientôt élève de l'école normale supérieure ». J'étais en Cannes, je passais le concours, ce qui était complètement fou. Déjà, je passais à la télé, ce qui était une sorte de blasphème. Et ensuite, la présentatrice annonçait mon succès à un concours où on était 60 reçus sur 3000 candidats. Je me souviens d'avoir eu une sorte de frisson à l'instant où elle avait dit ça. Oui, mais c'est un bon souvenir.
Et comment vous étiez arrivé dans cette émission?
J'étais arrivé dans cette émission, je ne sais plus. Mais je ne sais plus par quel hasard je m'étais retrouvé là. Je sais que l'enjeu de l'émission était d'avoir deux élèves, une élève de troisième et un élève un peu plus âgé, c'était moi, qui disent du bien de leur scolarité et qui célèbrent leur professeur. Donc j'en ai profité pour dire du bien de mes profs, ce qui ne me coûtait rien du tout.
Et vous avez évoqué Henri IV en disant que c'était un homme à femme.
Alors, je me souviens de ça absolument. J'avais dit que c'était l'homme à femme qui me plaisait. Je ne savais pas quoi répondre à Philippe Tesson. Et je n'avais aucune idée. Je ne voulais pas parler de Ravaillac ou de la poule au pot. Et donc, je dis voilà, je trouve l'homme à femme plus plaisant. Et il avait, et j'avais expérimenté ma première saillie à ce moment-là, puisqu'il s'était. C'était une répartie et j'étais passé à autre chose. C'est peut-être un fantasme personnel, je ne sais plus. J'ai un souvenir assez précis, en fait, de cette expérience. C'est ça qui est étonnant maintenant que j'y pense. J'y ai pas pensé depuis 100 ans.
Alors, il se trouve que Henri IV avait une autre qualité qu'on connaît peu. Il avait de l'humour. Ouais. Il faisait des bons mots, des plaisanteries. C'était presque une obligation quand on était roi à cette époque-là.
Ah oui, bien sûr. Alors, tous les rois n'avaient pas de l'esprit, mais Henri IV en avait absolument, plus qu'un autre, c'est vrai.
Dans cette émission, il y a un sujet qui demeure d'actualité plus qu'aujourd'hui que hier. Les jeunes lisent-ils? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle et qu'on en parlait déjà en 1994.
Je ne suis pas sûr que la question soit neuve. Oui, vous avez raison, c'était déjà un problème. Sauf que l'adversité en 94 était une adversité plus identifiable. C'est-à-dire qu'on pouvait opposer le texte à l'image, l'imagination, à le travail de l'imagination, aux images qui saturent l'imagination et qui vous dispensent de cet effort. C'était plus simple. Les termes du débat étaient plus simples. On n'avait pas cet outil extraordinairement ambivalent qu'on appelle les réseaux sociaux, qui sont à la fois des grands incitateurs et en même temps qui vous découragent évidemment de faire autre chose que d'y passer votre journée. Et donc les termes du débat étaient différents. C'était plus simple.
Oui.
C'était plus simple d'être en faveur de la lecture, de dénoncer comme un diable rampant la télévision toute puissante et de le faire à la télévision sans y voir de contradiction, si vous voulez. L'époque était vraiment différente de ce point de vue. Aujourd'hui, vous fustigez les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sûr, en fait, que ce soit si différent.
Effectivement. Alors, à l'époque, vous commencez à lire, et l'une de vos premières lectures, on va l'évoquer à travers une chanson, Raphaël Entoven.
Et je m'en vais faire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier.
Alors ça, c'est un grand succès de Dev. Je pense que beaucoup de celles qui ont écouté cette chanson ne savent pas que ça vient de Proust.
Contrairement à son auteur, qui est un Proustien savant et compétent.
Qui est l'auteur des chansons, Patrick Loiseau.
Oui, Patrick Loiseau et Dev, bien sûr. Les deux étaient d'excellents, sont d'excellents Proustiens.
Et Patrick Loiseau a découvert Proust grâce à ceux qui l'ont fait travailler au début, qui étaient Pierre Berger, Yves Saint-Laurent.
Absolument.
Qui étaient des Proustiens énormes. Et vous découvrez Proust comme ça, avec un amour de soi.
Je le découvre à 16 ans, en première, grâce à Madame Morel, merveilleuse prof de français, qui, dans un groupement de textes, à l'époque on avait des groupements de textes pour préparer le bac philo, dans un groupement de textes intitulé par elle Le roman du rire, avait sélectionné deux ou trois passages du début d'Un amour de Swann qui sont des passages puissamment comiques. Proust est toujours drôle, mais il y a des passages où il est officiellement drôle, où il a vraiment décidé de l'être, et où il y parvient avec un succès remarquable. C'est le début notamment d'Un amour de Swann. C'est tous les moments chez La Verdurin. Et en fait, je suis entré dans la, dans dans la recherche du temps perdu par ces moments-là, qui sont hilarants et qui m'ont immédiatement installé, si vous voulez, enfin en tout cas qui ont installé Proust sous un œil joyeux.
Voilà. Alors il y a eu ensuite La Prisonnière que vous avez lue, et ensuite vous avez, je crois, à 30 ans, relu Proust deux fois pour le comprendre, Raphaël Entoven.
Je suis ébloui, vous en savez plus que moi sur moi-même, parce qu'effectivement c'est ça. À 28 ans, je relis La Prisonnière pour les besoins d'une émission avec Nicolas Grimaldi, merveilleux philosophe Nicolas Grimaldi, et je savais qu'il avait beaucoup écrit sur Proust, notamment La Jalousie chez Proust. Je relis La Prisonnière pour les besoins de cette émission, et sorti de La Prisonnière, après avoir une idée un peu quand même du contenu du livre, etc., je décide en vérité de m'y mettre, et là, je n'en sors plus. Enfin, le livre ne sort plus de ma vie depuis que moi-même j'y suis entré. Et c'est comme ça que ça s'est fait.
Voilà. Et Proust, d'ailleurs, qui est arrivé à Cabourg parce qu'il avait lu une annonce dans le Figaro disant qu'il y avait un palace qui serait sur la côte normande. Et aujourd'hui, on prépare un musée, Le Temps Retrouvé, qui va ouvrir sur la promenade de Cabourg.
Il existe ce musée. C'est la Villa du Temps Retrouvé. Oui. C'est un bel endroit qui a été conçu par vraiment l'imagination de Tristan Duval et de gens qui l'ont accompagné. Jérôme Neutre, notamment, qui l'a accompagné là-dedans. C'est un endroit très agréable où les gens peuvent venir désormais et avoir un soupçon de belle époque et quelques pages autographes de Proust, ce qui n'a pas de prix.
Voilà. Alors, vos études à Paris, alors que vous n'êtes pas encore philosophe, vous faites le lycée Montaigne, qui est d'ailleurs un lycée contestataire, je crois, à l'époque.
Non, contestataire. On est rue Auguste Comte, si vous voulez. Ouais. Donc, on est contestataire parce qu'il faut bien faire quelque chose. Mais non, il n'y a pas de contestation. Il y a un peu de shit et un peu de skin, ouais. Un peu de truc, un peu de vie de lycée, un peu de prof maladroit, et voilà.
Voilà. Non. Et si vous êtes devenu philosophe, c'est parce que votre père, Jean-Paul Entoven, vous l'a conseillé, Raphaël.
Non, c'est pas qu'il me l'a conseillé, c'est que mon père me l'a indiqué.
Ah, c'est pas exactement
ça. Non, c'est pas la même chose. Ouais. Mon père m'a renseigné sur ce que j'allais faire. Il me l'a pas conseillé, il m'a pas dit si j'étais toi, je ferais de la philosophie, etc. Il m'a dit toi, tu seras philosophe. Mais pas de façon coercitive, d'ailleurs. Il l'a présenté comme un constat, et donc je l'ai vécu comme une nécessité. Mais le truc, c'est que assez vite, hein, quand même, le trajet qui m'y conduisait m'a fait rencontrer des êtres qui vous donnent tellement envie de ce que vous êtes en train de faire, qui vous apprennent tellement tant à vous approprier votre désir, qu'au bout d'un moment, vous êtes si heureux là que ce désir qu'on a fait vôtre, vous le faites vous-même vôtre, et ça devient une seconde nature, et il n'y a plus de problème.
D'ailleurs, si Jean-Paul Entoven vous a dit...
Mais il y a vraiment des... j'insiste là-dessus, il y a vraiment parfois des oukases qui n'en sont pas, qu'on a tort de contester.
Oui, et effectivement, et en plus, comme lui avait beaucoup fréquenté philosophes, peut-être qu'il a repéré en vous le futur philosophe, celui qui avait...
Non, je crois qu'il avait repéré surtout un rapport à la littérature et aux histoires qui était plus théorique que narratif, et ce qui nous valait d'ailleurs des discussions déjà intéressantes. Et nous avons, c'était un décalage d'ailleurs entre nos deux façons de voir qui a ensuite perduré. Mais il devait peut-être pressentir ça, j'en sais rien. En tout cas, c'était bien vu.
Alors, ensuite, le lycée Henri IV, un des plus prestigieux lycées de Paris, ça veut dire beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à l'Hippocagne, déjà.
Beaucoup de travail, mais du travail dans la joie, dans un environnement sublime, vraiment merveilleux. Il faut que j'arrête de dire merveilleux, mais pourtant, c'est le cas. Beaucoup de travail dans un environnement adorable, des professeurs excellents, et un travail dont la difficulté est soluble dans les conditions. Je dois dire, les conditions exceptionnelles de vie, de travail à ce moment-là, de climat et de curiosité. Mon seul travail, mon seul devoir, je n'avais pas à l'époque à gagner ma vie, mon seul devoir était d'apprendre le plus de choses possible, autant que possible. Alors c'était très difficile parce que j'étais dernier de ma classe en Hippocagne alors que j'étais premier en terminale, mais cette humilité salutaire a été une bonne chose et j'ai adoré cette période.
Et d'ailleurs il y a une tradition au lycée Henri IV, les lauréats sont reçus avec leurs parents à la fin de l'année et obtiennent le droit de monter au sommet de la tour Clovis. Je ne sais pas si vous l'avez fait.
Non, je n'ai pas fait
ça. C'est une tradition qui existe au lycée.
C'est une tradition à laquelle j'ai échappé, je ne sais pas ce qu'elle vaut.
Alors vous avez fait ensuite Normal Sup et finalement en étant reçu ensuite à l'école normale, c'est votre seconde émission de télévision parce qu'il y a des contestations à Sciences Po. Wow. et vous êtes à l'écran pour dire les chômeurs dehors qu'on nous laisse travailler.
Incroyable. C'est un reportage sur France 3 En fait, les chômeurs avaient occupé l'école normale. Ils occupaient l'école. Et moi, j'étais tout à fait pour ça. Je sortais puisque j'habitais à l'école. Moi, j'avais une turne à l'école, donc j'avais le droit d'entrer et de sortir comme je voulais. Et l'école était vraiment ouverte à tous les vents. Il n'y avait pas de contrôle, etc. C'était très différent. C'était la première fois qu'on avait mis des contrôles à l'entrée, justement, puisque tout le monde entrait comme dans un moulin. Il n'y avait pas de problème. Les chômeurs avaient occupé l'école. Et moi, qui étais solidaire, je leur apportais des paquets de cigarettes, du champagne, des trucs, etc. Et puis, seulement au bout d'un moment, ils avaient saccagé la bibliothèque. Et puis, ça, on le savait pas encore. Surtout, le directeur avait fermé la bibliothèque. Et nous qui vivions à l'école, moi je préparais ma maîtrise, j'avais pas du tout envie qu'on me ferme la bibliothèque, je voyais pas l'intérêt. En réalité, ils avaient raison de le faire, parce qu'ils avaient abîmé les lieux, etc. Et in fine, l'école a été fermée pour la première fois. Mais moi j'étais hostile à la fermeture de la bibliothèque. Ce qui me valait la détestation des gens qui, à l'école normale, étaient solidaires des chômeurs et considéraient qu'il fallait fermer la bibliothèque pour donner du poids et de la force à leur mouvement, comme de ceux qui étaient hostiles ou favorables, je ne sais plus, enfin des deux camps, si vous voulez, parce que ceux qui étaient favorables aux chômeurs considéraient que ça devait donner du poids, ceux qui étaient hostiles considéraient qu'il fallait les mettre dehors. Et donc j'avais l'hostilité des deux.
Et voilà. Et vous avez raté l'agrégation une première fois,
oui.
Et vous l'avez réussi la seconde.
Oui.
Mais vous aviez, je crois, les moyens financiers de passer la seconde agrégation.
Non, j'avais pas les moyens justement de passer la seconde agrégation parce que j'avais plus un rond et j'avais pas de. Et qu'à l'école normale, quand vous ne remplissez pas votre programme d'études, vous êtes non pas désagrégé, mais vous êtes suspendu de traitement. Donc pendant un an, j'ai été suspendu de traitement. Il fallait que je gagne ma vie pendant un an tout en repassant l'agrégation. Ce qui était plus compliqué, je me suis arrangé à ce moment-là pour d'abord. Pension paternelle en un jour tu vécu. J'ai fait ce geste incroyable, c'est ce que j'avais pas fait depuis des années. J'ai redemandé de l'argent à mon père et puis je me suis mis à donner des cours dont je me suis arrangé pour qu'ils portassent spécifiquement sur les points du programme. Et de cette façon, j'ai eu la grec.
Et ben voilà. Et ensuite, il s'est passé d'autres choses. On en parle avec une autre date, le 16 octobre 2000. À tout de suite sur Sud Radio avec Raphaël Enthoven.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Raphaël Enthoven. Nous parlerons tout à l'heure de l'École des Dames, votre première pièce aux éditions de l'Observatoire. Et là, on revient au 16 octobre 2000, c'est la rentrée universitaire et vous devenez allocataire, moniteur normalien à l'Université Jean Moulin à Lyon.
Ah oui, 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 un grand moment de solitude. Absolument, je me retrouve à MN, à Jean Moulin. Alors, je suis très heureux parce que je veux être prof, c'est mon souhait absolu. Je n'aime que ça, je me vis comme prof depuis des années déjà. Et là, j'ai enfin le droit de l'être. Et je prépare mes cours, je mets toute mon âme dans les cours que je prépare. C'était des cours sur les essais esthétiques de Hume, que j'essayais d'expliquer à des élèves de première et deuxième année. Et je mets toute mon âme là-dedans. Mais je découvre aussi une intense solitude. Je pars à Lyon à ce moment-là et je suis d'une solitude extrême et je me demande ce que je fous là. Tout en étant heureux. En fait, je ne suis heureux à ce moment-là que, je veux dire, sur scène, c'est-à-dire le lundi, j'avais mis toutes mes heures de cours ce jour-là. J'avais 7 heures de cours ce jour-là, je crois. J'avais tout calé et je n'étais heureux qu'à ce moment-là.
Et heureux de transmettre justement aux
heureux
autres.
Parce que vous êtes à la fac et que vous avez de bonnes conditions de travail et que j'avais des TD géniaux, j'avais des élèves sympas et que c'était formidable. J'étais moins heureux des relations avec mes collègues, j'étais moins heureux de la nécessité d'établir un ersatz de vie parallèle à Lyon pour m'adapter à ce lieu, etc. J'ai passé 2 années pour rien là-bas. Mais en revanche, l'enseignement, lui, a été pour moi, enfin, ce que j'ai réussi à faire à ce moment-là, ou ce que j'ai voulu donner aux élèves, et ce que j'ai réussi à leur donner, et le lien que j'ai gardé avec certains d'entre eux, n'a pas de prix.
Alors, le lien aussi, il a été très important au début, avec un professeur qui s'appelait Jacques Dariula.
Oui, très important, très important. Il est toujours là, d'ailleurs.
Oui, il a 75 ans, je crois.
Tout à fait, il est toujours... C'est vous qui le dites.
Oui.
Pour moi, c'est un jeune homme. Le lien avec Jacques Dariula est très important. Jacques Dariula est en Hippocagne. Enfin, je suis en Hippocagne, j'arrive, je suis en prépa. Je fais cet exercice d'humilité qui consiste à découvrir qu'on croit qu'on est bon alors qu'en fait on découvre qu'on est une brêle et qu'il y a des tas d'élèves plus forts que soi. Et donc je suis largué dans toutes les matières, sauf en philo. Et non seulement je suis pas largué en philo, mais j'entends grâce à mon Jacques Dariula que ce que je pressentais parfois, ou en tout cas des intuitions que j'avais en tête et qui étaient nées comme ça, toutes seules, s'incarnent soudain dans sa parole, et je découvre que aimer ceci n'est pas un exercice vain ni un jeu de l'esprit, mais au contraire un enjeu d'existence. C'est lui qui me donne ce sentiment-là.
Avec un texte qui était, je crois, le mémorial de Pascal.
Oui, c'est un texte merveilleux. Je suis content d'en parler aux auditeurs de Sud Radio. C'est un texte absolument extraordinaire. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Un 23 novembre, Pascal, entre 10h et minuit, a une illumination. C'est une illumination qu'il retranscrit sur un parchemin qu'on a égaré, puis retrouvé, etc. Peu importe, on n'a pas le texte original. On sait qu'il a demandé lui-même à être enterré avec le manuscrit de ce parchemin. Or, c'est très étrange, Pascal ne voulait être propriétaire de rien et n'acceptait jamais qu'un texte pût dire de lui qu'il était lui-même. Et pourtant, ce texte-là, il a voulu être enterré avec, et c'est un texte qui n'est fait que de citations de la Bible. Autrement dit, le texte qui lui ressemble le plus, qui dit le mieux celui qu'il est, c'est un texte qu'il a écrit sous la dictée d'un autre, la dictée de Dieu. Et ce dispositif qui veut que l'intimité soit une altérité, et que plus on se fouille, plus on s'explore, plus on découvre la parole d'un autre à l'intérieur de soi, quand on a 19 ans et qu'on commence la philo, 18 ans, 17 ans et qu'on commence la philo, et qu'on comprend ça, on est sauvé. Ça a eu cette valeur-là. Entre septembre et la Toussaint, j'ai mis 2 mois à comprendre que la véritable difficulté dans la vie, c'était pas de penser par soi-même, ça tout le monde peut. Non, c'était d'arriver à penser par autrui. Et cette trouvaille, c'est Dariola.
Dariola qui a fait aussi une chose étonnante en 2007, il a mis en ligne un site consacré à la philosophie et avec des textes qui imprimés donneraient 35 volumes de 300 pages chacun.
Jacques Dariola a mis la totalité de ses cours en ligne, jdariola.net. C'est comme si vous aviez la caverne d'Ali Baba en libre accès, avec toutes les portes ouvertes et des gens qui vous invitent, parfois maladroitement d'ailleurs, à vous y rendre. C'est une mine d'or qui servira, à mon avis, pendant des décennies à des tas d'élèves et d'étudiants. Quand on lui dit, d'ailleurs, quand on lui demande s'il ne craint pas d'être plagié, il répond qu'il craint davantage de n'être pas lu. Voilà, ça c'est Jacques Dariola.
Et en même temps, il est l'un des premiers à avoir fait un site de ce genre, ça n'existait pas.
C'est l'un des premiers à l'avoir fait. Oui. Et le site, je dois dire que l'ergonomie du site, enfin l'architecture du site est à peu près la même qu'en 2007, ce qui n'a aucune importance. Ce qu'il dit est impérissable, ce qui s'y trouve est très précieux, très étudié, très précis, et vraiment, vraiment, j'invite tout le monde, surtout les gens qui font de la philo, qui veulent en faire, à se jeter sur cette mine de diamants.
Alors ensuite, vous êtes revenu à Paris, vous allez à Caen où vous créez un séminaire de philosophie hebdomadaire avec Michel Onfray. Bon, ça se passe mal à la fin, mais c'est quand même aussi une nouveauté.
Oui, alors en fait, Michel me téléphone, on est en 2001 à peu près, et il me dit « je lance l'université populaire, j'en ai marre de tous ces cons, je sais pas quoi, comme il dit ça, ben, j'en ai marre ». Il était prof en terminale G à l'époque à Argentan, et il me dit « moi je lance l'université populaire ».
Il n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui.
Il n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui, mais enfin à Caen, Onfray, c'était ma Madonna, hein. Mais tant mieux d'ailleurs. Et grâce à ça, il arrive à lancer l'université populaire. On est 5, Gilles Geneviève, Séverine Auffray, Gérard Poulouin, Gilles Onfray et moi-même. Michel Onfray et moi-même. Mon cahier des charges à l'époque est de créer un séminaire de philosophie générale, sous ce titre pompeux, c'était que toutes les semaines j'allais à Caen, au musée des Beaux-Arts, dans l'auditorium du musée des Beaux-Arts, donner des cours de philo à des gens qui n'en avaient jamais reçu. Et ça, j'ai mis quelques semaines à comprendre l'importance de ce qu'on faisait. Et il faut rendre grâce à Onfray de ça. J'ai mis quelques semaines à comprendre l'importance de ce qu'on faisait quand, polycopiant des choses, parce qu'à l'époque c'était là, ça marchait à la photocopieuse, polycopiant des choses à la dernière minute en me disant « merde, faut que je fasse mon cours pour quand ?» Je polycopie des textes, je les donne et je les vois revenir. Je vois des gens qui n'avaient jamais fait de philo revenir la semaine suivante avec le texte annoté de part en part, bourré de questions, truffé de questions et des heures de discussion. Et je comprends à ce moment-là que ce qu'on est en train de faire est très important et que ce qu'on est en train de donner, des gens n'auraient même pas eu l'idée de le recevoir si on n'avait pas fait cet effort. Et ça, il faut vraiment rendre grâce à Onfray. Après l'université populaire, c'est une personnalité difficile, on peut pas ne pas se fâcher avec lui, et il en a fait un peu l'université du peuple, mais c'est pas grave. Le point de départ, je veux retenir ça, le point de départ, je trouve, a été, de ce point de vue, vraiment précieux pour beaucoup, beaucoup de personnes.
Et vous dites d'ailleurs que les élèves annotaient les polycopiers, mais vous annotez vos livres aussi,
oui,
je crois.
C'est assez, oui, j'ai toujours écrit sur mes cahiers, sur mes livres. Mes livres sont mes cahiers.
C'est curieux, ça.
On a fini un jour par me dire que c'était un geste talmudique. C'était une façon que j'avais d'habiller les textes. Et que le Talmud, de la même façon que le Talmud se présente comme un texte enchâssé dans d'autres textes qui lui font comme une tenue, ou qui le tiennent et qui le couvrent en même temps et qui le révèlent en le couvrant, J'ai voulu penser, c'est la version rabbinique de ma démarche, que je faisais pareil.
Alors vous allez aussi...
La vérité, c'est que j'écris des numéros de téléphone sur un livre, je suis comme tout le monde.
Hein. Exactement. C'est votre vie privée. Vous enseignez ensuite à Paris, à Sciences Po, à Polytechnique, et puis il y a une école très importante, c'est l'école active bilingue Jeanne-Emmanuel.
Oui, c'est vrai, c'est pour une école... Ben, c'est-à-dire, c'est une école qui m'a donné la chance d'expérimenter une modalité de l'enseignement que je n'avais pas testée de façon systématique, c'est-à-dire de façon organisée. Et que j'ai pu éprouver, je crois, les bénéfices pour les élèves, qui étaient d'enseigner la philo de façon ordonnée et structurée à partir de la seconde, et non pas de la terminale. Pour vous donner un exemple tout simple, si vous enseignez la philo en terminale, vous dites, par exemple, je ne sais pas moi, dans le livre 2 de la République, Platon décrit, raconte l'histoire d'un pêcheur qui, quand il retourne une bague, devient invisible et qui devient méchant. Quand vous commencez à enseigner ça en seconde, vous dites à des élèves « Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez sous la main une bague qui vous permette de devenir invisible ? Seriez-vous aussi sage que vous l'êtes à l'instant ?» Et c'est juste une façon, c'est une porte d'entrée un tout petit peu différente, mais en réalité, on peut dire exactement les mêmes choses. Et j'ai pu tester ça pendant 6 ans, en faisant cours tout simplement à des élèves de seconde, de première et de terminale, et en vérifiant dans le temps, dans la durée, les bénéfices de cette introduction à la philosophie qui leur permettait bien souvent de dédramatiser la chose, d'arriver en terminale tranquille.
Alors, cette école bilingue Jeanne Manuel est considérée depuis 8 ans comme la meilleure école de France.
Ah bon ?
Oui.
Tant mieux, pourquoi pas.
Et voilà, et il y a un élève prestigieux qui est lié à cette chanson. Another Brick in the Wall par les Pink Floyd, à une soirée en juin 90, après 10 ans passés sur ces bancs, Anthony Blinken, qui est aujourd'hui le secrétaire d'État de Biden, interprète cette chanson, qui est un tube des Pink Floyd, et la chanson c'est « Nous n'avons besoin d'aucune éducation, les profs, laissez les gosses tranquilles ». Eh bien, tout le monde l'a repris en chœur et a dansé sur cette chanson.
Génial, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Il faut dire aussi, c'est Roger Waters, cette chanson.
Exactement.
Mais c'est quand même l'homme le plus antisémite du monde, c'est quand même étonnant, c'est-à-dire qu'on commence par refuser l'éducation et on finit antisémite. Mais ça, c'est une autre histoire. La chanson est quand même sublime.
Voilà, et cette école, que les professeurs dansent sur cette chanson, c'est un signe de liberté.
C'est un signe de c'est sympa.
Voilà.
C'est sympa, c'est bien.
D'autres c'est moments bien. Dans votre vie qui ont aussi changé votre vie, et une autre date, le 23 septembre 2004. A tout de suite sur Sud Radio avec Raphaël Entoven.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Raphaël Entoven. L'actualité, c'est l'école des dames, une pièce dont on vous parlait tout à l'heure, une pièce sous forme de livre. Et 23 septembre 2004, c'est vos débuts dans cette émission de télévision. Au début de chroniqueur télé, dans Campus, avec la Minute Philo, que vous enregistrez pas sur le plateau, mais en marchant dans un parc.
Oui, absolument. J'ai testé toutes les minutes philo, les instants philo, les petits-déj philo, les heures philo, les trucs philo qu'on peut imaginer et concevoir. C'était le premier du genre, peut-être. Oui, j'avais fait ça, à l'invitation d'ailleurs de Guillaume Durand à l'époque. C'est vrai. J'ai fait ça. On a assez vite d'ailleurs abandonné la Minute Philo pour une participation en plateau, ce que je trouvais beaucoup plus intéressant et qui en vérité correspondait davantage à ce que j'avais envie de faire.
Oui, mais cette Minute Philo, donc vous avez 1 minute pour faire aimer Socrate, avec un livre Socrate le sorcier, et c'est vrai qu'en 1 minute c'est pas évident, et ce livre vous n'avez pas choisi au hasard.
Non, c'était le livre de Nicolas Grimaldi, Socrate le sorcier, absolument, c'était le livre avec lequel j'avais fait l'émission de radio laquelle je tenais le plus, qui était une émission de sur France Culture où j'avais invité Nicolas Grimaldi à parler de plateau pendant 2 heures. En fait, pendant 1 heure, et puis on est resté 2 heures, et finalement, on avait fait 2 émissions d'une seule. France Culture permettait ce genre de liberté. Et Nicolas Grimaldi, dont je ne partage pas la lecture, mais dont j'admire tant l'élocution et qui me fait penser à Jean Kelevitch, Nicolas Grimaldi m'avait offert ce jour-là vraiment l'émission la plus géniale qu'on puisse faire, je crois, sur la question du désir chez Platon. Et donc je voulais, moi, ma minute philo, on fait avec ce qu'on a, si vous voulez. Moi j'avais ça en tête, j'avais ce livre en tête, il m'avait porté bonheur et j'avais envie de le garder et de lui donner sa chance sous la forme d'une minute à la télé.
Alors Socrate avait beaucoup d'humour, c'est ce qu'on ne sait pas.
Oui, il avait de l'ironie, plus que d'humour.
Et un jour, sa femme, qui s'appelle Xantippe, elle a 30 ans de moins que lui, elle est célèbre pour son caractère, disons, diabolique, et on demande pourquoi il l'a épousée, il dit « J'aime apprendre tous les jours d'une personne avec un si mauvais caractère ».
Oui, absolument. Et puis le jour de de sa mort. La légende veut que Xanthippe soit venu voir Socrate et lui dise « Mais mon mari, tu vas mourir, tu vas mourir. » Et il dit « Écoute, femme, laisse-moi tranquille, j'ai peu de temps, justement, il faut que je discute avec mes disciples. » Et elle lui dit « Mais comment tu vas mourir, toi, le meilleur des hommes? Tu vas mourir alors que tu es innocent. » Et là, il la fusille du regard et lui dit « Et quoi eût-il mieux valu que je mourusse coupable ?» Ce que je trouve formidable.
Alors, le métier de chroniqueur...
Mais c'est la première mégère de l'histoire de la pensée, oui. C'est vrai.
Raphaël Enthoven, le métier de chroniqueur télé, c'était pas votre plan de carrière au départ?
Non. Non, non. Mais mon plan de carrière était celui de pédagogue. Enfin, plan de carrière. Le seul plan que j'avais, en réalité, était celui de pédagogue. La seule chose que je savais, c'est que je serais à cet endroit de l'intercession, de la position de celui qui reçoit un savoir et qui est en charge de le transmettre. Je serais filtre. Je voulais faire ça. Je voulais être prof. Et sur tous les supports, j'ai voulu et tenté de l'être. Je suis plus réservé aujourd'hui, c'est peut-être un effet de l'âge, sur les vertus de cet exercice, ou en tout cas j'ai moins, moi, l'énergie de le faire, c'est-à-dire moins le souci de convaincre désormais que de tourner en dérision les choses. Mais ça, c'est parce que l'époque change. Mais pendant très longtemps, l'enjeu, c'était ça. La position du pédagogue, la position de l'intercesseur, c'est vraiment la position que les réseaux sociaux détestent. C'est la position parce que... Ce qu'on a appelé l'ubérisation, c'est vraiment le fait d'enjamber les filtres et de considérer qu'on gagne en liberté en se dépouillant d'un prescripteur ou en se dépouillant d'un intercesseur ou d'un interprète. Je suis l'interprète dont l'époque veut se dépouiller pour conquérir plus de liberté. À mon avis, c'est de la servitude volontaire. Mais enfin, on est exactement, les profs notamment, à cet endroit-là.
Oui, mais en même temps, parler de philosophie à la radio ou à la télé, c'était pas évident voici 15 ans.
Non, c'était pas évident. France Culture permettait ça. Oui. France Culture qui était précurseur. France Culture, c'est la JOCR de ce qu'on fait de mieux à la radio, c'est-à-dire que ou de ce qu'on fait de plus libre ou de plus innovant. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est là que les choses se créent. Et je dois dire que Culture, en pleine rentrée littéraire, me disait, vas-y, fais ton émission sur Maître et Carte, parle-nous de la mystique rhénane, parle-nous de la critique de la raison pure, il n'y a aucun problème. Je suis entré dans la radio avec le sentiment que la radio était non seulement un monde parallèle, mais un espace-temps parallèle, et qu'on pouvait échapper à l'actu.
Et les réseaux sociaux, pour vous, c'était une manière au départ de toucher les jeunes, de leur apprendre quelque chose?
Non, les réseaux sociaux, c'était... en fait, j'y étais pas du tout au départ. Moi, j'étais sur l'Aventin de France Culture, j'étais dans cette stratosphère à la fois pertinente et confortable, si vous voulez. Et quand je suis entré dans l'arène pour des raisons de vie, je me suis retrouvé à travailler à Europe 1, j'ai découvert deux choses. D'abord, la nécessité de s'y trouver, parce que si nous n'étions pas là, c'était la loi de la nature, la loi de la jungle, et que donc il fallait s'y trouver pour instaurer deux ou trois limites, ou créer dans la mesure du possible deux ou trois espaces un peu homogènes et un peu limités, où les gens se tiennent. Et puis surtout, j'ai découvert une telle quantité de mauvaise foi et une telle fabrication d'opinions, que l'envie de prendre le contre-pied de ce mouvement délétère m'est venue assez vite, oui.
Alors, il se trouve que je me suis un peu renseigné, je ne sais pas si vous le savez, le premier philosophe à avoir parlé de la radio, c'est Brice Parrain, en 1930. Ah. Oui, un philosophe, il a étudié l'évolution des mouvements intellectuels de son époque, et il a dit, la radio, ce sont les postes récepteurs, il y aura un jour des postes émetteurs, chacun pourra appeler n'importe qui dans le monde et lui répondre s'il en a envie. Donc, il a imaginé les réseaux sociaux avant la lettre.
Ah oui, alors, les réseaux sociaux, avant Brice Parrain, je découvre cette citation, ont été pensées par Leibniz.
Bien sûr.
C'est-à-dire l'idée d'une réticulation universelle du monde et du sentiment que tout serait tissé. Et en un sens, comme il dit, la vie est un songe plus ou moins lié. Ce lien, l'idée de ce lien universel et de cette causalité générale, c'est Leibniz. Le premier penseur du réseau social et de la célérité des réseaux sociaux, c'est Leibniz. Mais au-delà de ça, bien sûr, Nietzsche, après lui, avait prédit à la fin du 19e que sous l'effet, sous la pression des moyens de communication, des groupes se formeraient qui transcenderaient les nations. Le réseau social est neuf dans sa puissance, mais il est antique dans le désir qu'on en a.
Oui,
c'est pour ça que ça prend tellement d'air.
Ça prend beaucoup de choses, et surtout, ce n'est pas facile à gérer, parce que on vous attaque, vous répondez, c'est presque une tradition maintenant, vous faites partie de ceux qui sont souvent attaqués sur les réseaux sociaux. C'est pas facile à gérer, ça, non?
C'est plus facile à gérer que l'indifférence. Je connais des gens, par exemple, qui aimeraient tant sur les réseaux sociaux faire du bruit. et qui n'y parviennent pas. Ceux-là ont une souffrance, et on est, il ne faut pas croire que ce genre de souffrance ne se voit pas. C'est plus facile à gérer que l'indifférence, et c'est aussi une excellente esquive. Vous savez, les affrontements qu'on se donne vous permettent d'en esquiver d'autres.
Oui.
Donc, si je me bagarre sur les réseaux sociaux, c'est aussi que je dois certainement, d'une manière ou d'une autre, y trouver mon compte.
Oui.
Sinon, j'en partirais.
Voilà. Et vous y êtes, et quelquefois, vous constatez, comme beaucoup d'autres, les fautes de français, les fautes d'orthographe.
Ah oui, j'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça parce que ça me paraît très important en vérité. Et que surtout, nous vivons une époque de. Le procès d'intention a pris tant de place, si vous voulez, que quand vous utilisez la rationalité, on vous accuse de vous servir d'un outil de domination. Quand vous dites que 2 et 2 font 4, on vous accuse d'être conservateur. Quand vous rappelez la règle du subjonctif présent, voire même imparfait, sur des réseaux sociaux, on vous accuse de mépris de classe. C'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Je me fais une très haute idée des gens avec qui je discute, et je considère que ce genre d'objection est recevable. Ce qui donne des dialogues surréalistes. C'est pas très grave, tout ça. C'est pas très grave. C'est pas très important non plus. Ce qui est important, en revanche, me semble-t-il, c'est de ne pas baisser les bras et de ne pas livrer cet espace à la jungle. Et à la violence et à l'identitarisme. C'est-à-dire au sentiment, au désir qu'on a de se prendre pour son opinion.
Alors, il y a aussi une chose importante, c'est que la philosophie, aujourd'hui, il faut se servir de l'actualité pour aller vers le futur. Et l'actualité, c'était pas au départ votre but, mais finalement, vous y êtes.
Oui, et j'ai découvert en travaillant l'actualité pour les besoins d'une émission sur Europe 1, quand, entre 2015 et 2018, mon travail consistait à me servir de l'actualité pour faire de la philo. Et j'ai découvert en le faisant, et ça m'arrangeait de le découvrir, mais le fait est que ça m'a sauté aux yeux, qu'en fait, les questions d'actu, celles du jour, ne sont jamais des questions neuves. Rien n'est plus répétitif que l'actualité. Rien ne ressemble plus à une journée qu'une autre journée où l'actu est différente. Mais elle est faussement différente. En réalité, ce sont des événements de même ampleur, commensurables, digérés par des formats homogènes. Alors que ce qui est neuf, ce sont les grandes questions dont ces événements sporadiques sont l'écho. Et donc le travail à ce moment-là, à la radio, devient non pas de commenter l'actu avec les grands outils de la métaphysique, parce que ça c'est faire du monsieur philo et j'aurais pas tenu 2 semaines. Non, c'est de faire vraiment de la philo, c'est-à-dire de prendre des faits apparemment anodins pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'écho de grandes questions, et de faire jaillir ces grandes questions. Et c'est comme ça que l'émission a pu tenir 3 ans.
Voilà, et vous avez fait encore mieux, car vous pensiez que vos chroniques, ça durerait quelques minutes à chaque fois, et puis un jour Dominique Ambiel vient vous voir, Raphaël Enthoven, propose une idée que vous refusez, faire une émission de télévision de 26 minutes sur la philosophie.
Oui, il me dit, on déjeune ensemble, on ne se connaissait pas, c'est Patrick Zelnick qui nous présente, à l'époque le PDG de Naïve, qui nous présente, et on ne se connaissait pas. Et Dominique me dit, il faudrait faire de la philo à la télé. J'y crois pas du tout, ça sert à rien, pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que l'image parle aux yeux et qu'on parle mieux aux oreilles qu'aux yeux, et je suis un homme de radio, donc la télé ça m'emmerde, et en plus j'aime pas l'image, je m'en méfie, etc. J'ai pas envie de faire ça. Il me dit, écoute, t'en fais ce que tu veux, rédige quelque chose et on le présente à Arte. On a discuté un petit peu, et j'ai rédigé un truc dont l'intention était de décourager Arte de l'accepter. C'est-à-dire que je voulais quelque chose où on invite les gens selon leurs compétences et pas leur notoriété, où on puisse critiquer des images issues de la chaîne elle-même, et où on fasse des plans-séquences. C'est-à-dire des trucs où il y a une seule prise, comme ça les gens voient ce qu'on vit. Et c'était fait pour décourager Jérôme Clément. Et mon Jérôme Clément, voyant le projet, dit « Ben oui, ok, d'accord, allons-y ». Et je me retrouve prisonnier de mon projet, et ça fait 13 ans que ça dure.
Voilà, et ça continue.
Enfin, prisonnier. Attention, c'est un bonheur absolu. Faire cette émission est un régal quotidien. Enfin, quotidien, non, malheureusement. C'est un régal que je fais 16 fois par an, mais c'est un régal depuis tant d'années, renouvelé à chaque fois.
Oui, mais à chaque fois avec un public tout à fait différent qui découvre la philosophie et le français.
Oui. Oui, oui, absolument. C'est une émission qui a rempli cette fonction. C'est-à-dire que des gens très différents s'y sont intéressés, l'ont abandonnée. Certains ont même cru que l'émission avait été arrêtée, puis ils l'ont retrouvée ensuite. La seule chose qui n'a pas changé, c'est le présentateur et le réalisateur et l'équipe. En réalité, pour beaucoup d'entre nous, on était déjà là au début de l'émission. La première tournée, c'était en 2007. Ça fait 15 ans. En réalité, ce qu'on a découvert, c'est qu'en philosophie, le nombre des sujets est limité, mais leur traitement est absolument infini, et par conséquent, on a devant nous une éternité d'émissions.
Il y a de quoi faire, effectivement. Alors, il y a aussi une chose, on a beaucoup parlé de vous dans les pages People à une certaine période, on a étalé votre vie privée. Comment on gère ça, Raphaël Enthoven ?
Par l'expérience, quand on le fait malgré vous, c'est-à-dire quand on le fait à votre corps défendant et qu'en plus on raconte des sottises...
Ce qui est courant.
Ce qui qui est courant, ça va avec, vous avez le choix. Soit vous décidez de purger en permanence l'espace et de dire mais non, c'est pas vrai. C'est autant écrire à la totalité des personnes qui ont envie de croire quelque chose pour leur dire vous vous trompez, et les gens s'en foutent. Soit vous baissez les bras, là, et vous consentez à la séparation totale entre vous-même et votre image. Et vous assistez, comme au cinéma, au destin de votre image, à la naissance de votre image, en fait. Et moi, j'ai une image, c'est très intéressant, qui est née à ce moment-là, qui s'est autonomisée à ce moment-là, qui s'est mis à vivre à Saint-Germain-des-Prés, qui s'est mis à faire des trucs que je faisais pas, qui est pas né le même jour que moi. J'ai assisté à la naissance de mon image. Et c'est intéressant. Et aujourd'hui, mon image mène sa vie parallèle, d'ailleurs. C'est moi qui vous parle, mais c'est elle que les gens verront. C'est toujours pareil. J'ai assisté ce jour-là à la naissance de mon image. Et j'ai accompagné cette naissance d'une volonté d'indifférence. C'est-à-dire de la volonté de la séparer de ce que j'étais. Et de fait, quand vous êtes en prise directe avec des faits qui suscitent la curiosité, et que vous avez sous les yeux la réalité de ce qui se passe, et en même temps, les conneries qu'on raconte à son sujet par des gens qui croient dur comme fer à ce qu'il raconte, vous êtes le témoin de ces deux trucs-là. Vous voyez, et vous entendez. Vous voyez ce qui se passe, vous entendez n'importe quoi par des gens qui vous expliquent à vous ce que vous avez vu. Et vous êtes dans cette position-là. C'est une position tellement précieuse en réalité. Soit vous choisissez de devenir fou, soit vous choisissez d'être sage et d'en faire votre profit.
Voilà. Et la sagesse permet d'écrire d'autres choses.
Oui.
On en parle avec une autre date, le 12 mai 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Raphaël Entoven.
Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Raphaël Entoven, 12 mai 2021. Donc sortie de ce livre L'école des dames aux éditions d'Observatoire, qui est une pièce de théâtre. Alors là, encore une fois, vous passez de l'enseignement à la narration. C'est nouveau pour vous.
C'est nouveau. Alors, c'est pas venu avec cette pièce de théâtre, c'est venu avec mon premier roman qui était paru 6 mois plus tôt. C'est nouveau quand soudain les choses se sont imposées à moi sous cette forme-là. Pendant très 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 longtemps, j'étais vraiment fixé à l'échelon de l'essai, de la démonstration, du cours d'abord, puis de l'essai. Et soudain, les choses me sont venues sous la forme du récit, puis du théâtre. Maintenant, en janvier prochain, de la fable. C'est sous cette forme-là que les choses me viennent désormais.
Alors donc, cette histoire est née, je crois, lorsque vous avez vu, je crois, dans les années 90, une pièce avec Ludmila Michaël qui s'appelle Célimène et le cardinal.
C'était la suite du Misanthrope. Je vois Célimène et le cardinal. Le Misanthrope, Alceste, est devenu cardinal, ce qui est tout à fait logique d'ailleurs, ça fonctionne très bien. Et Célimène est interprétée par Ludmila Michaël.
Qui a eu un Molière d'ailleurs avec
oui,
cette pièce.
Oui, bah, ça ne m'étonne pas, elle était sublime, comme toujours. Mais surtout, je découvre que, comment dire, moi j'avais une perception un peu mythologique de Molière et je me disais qu'on ne devait pas toucher à ça. Et je découvre soudain la liberté qu'on peut se donner de faire soi-même des vers et d'aller dans le sillage de Molière si ça nous fait plaisir. Et cette liberté inouïe, je me souviens, m'émerveille plus encore que le texte de la pièce qui est marrant, qui était bien, mais qui avait le mérite d'exister. J'ai gardé ça en tête. Et puis longtemps j'ai été hanté par l'école des femmes, par le texte de l'école des femmes et l'envie de l'adapter en l'adaptant aux conditions du 21e siècle et à l'inversion des rapports de force.
Oui, parce que 21e siècle, c'est MeToo et les réseaux sociaux.
Oui, c'est pas la même chose, si vous voulez. Au 17e siècle, Molière peut aisément inventer le dispositif, enfin, représenter le dispositif d'un vieux barbon qui séquestre une jeune fille, une jeune innocente. Si aujourd'hui, vous essayez de séquestrer quelqu'un de 20 ans, si vous voulez, comme elle est sur TikTok et sur Instagram, il n'y a aucun problème. En deux secondes, c'est elle qui vous expliquera la vie. Et donc, le dispositif est un peu différent. Et puis, en fait, ce qui est intéressant le binôme Arnolphe Agnès, célébrissime au théâtre, je lui ai substitué le binôme Colin-Jeanne. Et Colin, c'est Pygmalion, mais c'est le Pygmalion ambivalent. C'est-à-dire qu'il a tout donné à sa Galatée, mais il ne veut pas qu'elle le dépasse. Et donc le voilà prisonnier désormais d'une créature qui, comme à Frankenstein, lui échappe.
Oui, parce que bon, je crois que grâce à lui, elle a eu un Molière.
Non. Elle a eu un Molière grâce à elle.
Oui,
mais il veut s'attribuer le bénéfice. Il fait comme la CGT en 68. Ces événements nous échappent, feignons d'en être l'organisateur. Non, il a fait son CGT. C'est-à-dire qu'il subit une réussite dont il est au départ l'instigateur, le premier donateur, si ça.
Alors, rien à voir, effectivement, avec la comédie de Molière, puisque Jeanne, c'est une femme libre, qui a un fils et une cigarette électronique, et elle a un côté sexy, un langage cru et direct.
Elle n'a pas de fils. Ah, elle n'a pas de fils. Non, je ne lui connais pas d'enfant. Peut-être qu'elle a eu un enfant.
Parce qu'il le dit à un moment.
Non.
Ah si.
Non. Ah, bah, non, c'est un malentendu. Je serais surpris qu'elle ait eu un enfant. Ça m'aurait échappé. Mais effectivement, elle est dans les soucis du moment. Mais surtout, elle est celle qui, c'est une comédienne qui a ce fait de son métier, l'idée suivante, elle considère que pour un comédien, les passions font toute la science. Ses passions font toute sa science. Or, le débat qu'elle a avec Colin est un débat sur le théâtre, puisque Colin, lui, considère qu'un bon acteur est un contrefacteur. C'est quelqu'un qui ne doit pas éprouver ce qu'il ressent. Tout l'enjeu est de convertir celui qui jouera le rôle d'Horace dans leur adaptation à une thèse ou à l'autre.
Voilà. Et en plus, il y a quelques mots grivois dans cette pièce, mais Molière, lui aussi, avait des sous-entendus grivois en permanence.
Plein, en particulier dans l'école des femmes. Alors, il était moins clair, il n'écrivait pas sodomie, il n'écrivait pas cunnilingus, mais il le pensait. Et surtout, ce qui était très fort avec Molière, c'est qu'il était le porte-parole à la fois du mari cocu qui trouve que l'époque fait n'importe quoi, et de la femme qui se libère et qui considère qu'aucun père ni mari n'est fondé à imposer quoi que ce soit à son existence.
Et alors que tout le monde dit que Molière et macho, vous dites qu'il est féministe.
Non seulement je dis qu'il est féministe, mais je trouve très important de reconnaître qu'il l'est. Parce que rien dans son identité, rien dans son idiosyncrasie, comme on dit, rien dans sa trajectoire, ne le porte au féminisme. Ne le porte à donner la parole, à créer des personnages comme Agnès, Angélique, Armande ou Philaminte. Rien ne le porte à produire ça. Et pourtant, il le fait. Ce que je veux dire, c'est que de la même manière qu'en vertu de la théorie du genre, on n'a pas forcément le genre de la forme de son sexe, le destin que nous réserve la forme de son sexe, au XVIIe siècle, un mâle blanc, comme on dit, un mâle blanc quinquagénaire et cocu, pas, quadragénaire et cocu, peut se faire le porte-parole du discours le plus libératoire qui soit. Et consentir à ça, reconnaître ça, serait à mon avis une grande victoire.
Et on découvre en lisant l'École des Dames, Raphaël Entemen, que vous connaissez parfaitement Molière depuis longtemps.
J'ai appris à lire en lisant Molière. Moi, j'ai appris à lire en lisant Molière, La Comtesse de Ségur et Tintin. Ce sont mes trois référents natifs, ce sont mes trois alphabets. Molière, j'ai fait le malin pendant longtemps, mais là encore, j'étais tellement sidéré qu'on pût écrire en vers. Quand j'ai découvert ça, je me souviens. Je lisais Le Misanthrope, j'y comprenais rien, mais je m'arrêtais sur le dernier mot et je trouvais miraculeux que le dernier mot suivant coïncida avec celui d'avant. J'en revenais pas. J'ai appris comme ça.
Mais la versification, c'était pas non plus votre spécialité. Vous avez appris et vous comptez sur vos doigts, je crois, pour les vers.
Non, on compte toujours un peu sur les doigts. On a toujours ça en tête. On a toujours la rythmique en tête. Et puis, l'alexandrin est traître. Si à la césure, vous avez un S, par exemple, et vous avez un pied supplémentaire, si vous n'y faites pas gaffe, soudain, vous vous retrouvez avec un vers à 13 pieds. Donc, il faut faire gaffe. Et puis, comme dirait Victor Hugo, j'ai disloqué ce grenier d'alexandrin. C'est-à-dire que je halte à la césure, à l'hémistiche, si vous voulez. L'enjeu n'était pas là. L'enjeu, c'était d'avoir un cadre qui permette de tenir l'histoire et qui soit comme le miel de l'absinthe, mais pas non plus d'être dans une prosodie absolument classique.
Oui, en mélangeant d'ailleurs des scènes de l'École des femmes qui apparaissent dans ce rang.
J'avais en tête, vous savez, un documentaire fameux, avec Al Pacino, qui s'appelle Looking for Richard, où il raconte comment il met en scène, il cherche à trouver la mise en scène de Richard III. Et le documentaire est entrecoupé, donc il y a des scènes de la vie ordinaire où on voit Al Pacino en mode normal, hein, enfin quotidien, et puis soudain il est Richard III. Et j'aimais ces points de bascule, ces moments où paf, on passait dans la pièce, et la pièce mise en scène aboutit, achevée. Et ce mélange des deux m'a semblé une chose magnifique. J'ai voulu faire, si j'ose dire, la même chose, c'est-à-dire intercaler l'École des femmes elle-même à l'intérieur du désir de la répéter.
Et d'ailleurs, Molière s'est inspiré au départ d'un canevas romanesque d'origine espagnole, La précaution inutile, et d'une nouvelle italienne au XIIIe siècle pour écrire l'École des femmes.
Oui, bien sûr.
À chaque fois, il y a un lien qui se crée.
Mais ce sont des histoires éternelles. Le désir que nous pouvons avoir de créer quelqu'un de toute pièce remonte à la mythologie grecque. Et l'École des femmes n'est qu'une version du pygmalionisme, dont Frankenstein aussi est à sa manière une version. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir à quel point tous les pygmalions redoutent que leur créature leur échappe. À commencer par l'humain, aujourd'hui, qui redoute que ses machines lui échappent et qui, de cette façon, d'ailleurs, se prend pour Dieu.
Et alors, dans cette pièce, dans ce livre qui est cette pièce, il y a une scène de casting.
Ouais.
Et il y a une chanson qui est évoquée en filigrane.
Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en...
Il y a aussi le gorille. Vous aimez Brassens?
J'adore Brassens. Et puis il y a même Méditer l'impartial message d'un qui nous vient du troisième âge. Oui, il y a trois citations de Brassens dans la pièce. La jolie fleur dans une peau de vache, je crois savoir, je veux me tromper, mais je crois savoir croire que la jolie fleur en question, c'était Nadine Trintignant.
Non.
Non, pas Nadine Trintignant, Nadine de Rothschild, pardon. Oui. Dieu me pardonne. C'était Nadine de Rothschild.
Oui, elle s'appelait à l'époque Nadine Tallier. Elle était comédienne, animatrice. Et je crois que ça s'est mal passé du côté de l'Olympia où elle était présentatrice avec Brassens.
Manifestement. Voilà. J'aime que une jolie fleur dans une peau de vache, 40 ans plus tard, ait écrit femme d'un jour, femme toujours. Je trouve ça très drôle.
Alors, il y a aussi ce
Nadine Trintignant.
Il y a aussi, vous évoquez finalement le problème des acteurs ratés dans cette histoire.
Oui, acteurs qui n'ont pas eu exactement le destin qu'ils s'imaginaient, vous savez, qui se représentent au-delà de la vie qu'ils ont eue, la vie véritable qu'ils ont, et tous les Césars qu'ils n'ont pas reçus. Il y a un peu de ça chez Moncolin, c'est vrai. Il y a un peu de cette amertume-là. Mais pas seulement, parce qu'il a aussi été bon acteur, et on lui reconnaît ses qualités d'acteur, mais il est un peu passé à côté de sa carrière. Oui. C'est très difficile de passer à côté de sa carrière tout en ne souhaitant que du bien aux gens qui viennent après vous, si vous voulez. C'est très difficile d'être impuissant tout en voulant que les autres bandent. C'est compliqué. Et ça, c'est le problème de Colin.
Et le problème aussi, c'est le problème du désir et de la vieillesse.
C'est le problème du désir et de la vieillesse. C'est le problème d'une compétition qui n'a pas lieu d'être. C'est le problème qui consiste à augmenter l'esquive à mesure que la réalité se rapproche, au lieu tout simplement d'affronter le réel et de le dissoudre dans l'affrontement qui nous oppose à lui. Et ça, c'est le drame de Colin.
Alors, vous évoquez aussi dans ce livre, dans cette pièce, L'École des Dames, Raphaël Enthoven, des choses qu'on n'imaginait pas dans Molière, c'est-à-dire Koh-Lanta, Camping et quelques autres émissions de télévision.
Oui, c'est vrai, parce que c'est le lexique du moment, et puis il faut faire rire les gens. Par exemple, Koh-Lanta, Jeanne veut absolument convaincre Nathan, qui doit jouer Horace, que malgré son homosexualité, il a du désir pour elle. Parce que si Nathan n'a pas de désir pour Jeanne, alors Horace n'aura pas véritablement de désir pour Agnès. Donc c'est essentiel que Jeanne obtienne le baiser de Nathan, et davantage, bien sûr. Il y a un baiser sans consentement dans cette pièce, mais c'est une femme qui l'obtient. Et c'est très important. Elle en a besoin. Et j'ai oublié votre question, parce que je suis parti dans le baiser sans consentement.
De Koh-Lanta et de...
Oui,
de
et évidemment, le pauvre Nathan fait tout ce qu'il peut pour échapper à Jeanne le Titan. Et à vous comprendre encore, je n'arrive pas. Voulez-vous que j'emmène Agnès à Koh-Lanta? Oui, parce qu'elle lui dit, je ne sais plus, une femme ingénue, si pure, qui voudrait qu'en la matière, tu tentes l'aventure. Et voilà. Il ne veut pas. C'est une façon comme une autre de résister à la femme qui veut le dévorer.
Et vous faites rimer Raphaël Enthoven, Polanski avec Dostoïevski, et pas seulement à cause de tout ce qu'on a raconté sur Polanski.
Non, mais parce que ça marchait, et puis les rimes en ski, il n'y en a pas tant que ça. Et il se trouve que c'est le moment où Colin s'agenouille devant Jeanne, parce qu'on se grandit à se donner l'air d'un pénitent, et elle lui dit, mais l'homme ose se prendre pour Dostoïevski alors qu'il tremblait que je vise Polanski. Colin se récrie, il dit, mais enfin, comment oses-tu mettre cela sur la table alors que je t'ai sauvé des griffes du diable ? À quoi Jeanne en profite pour lui rappeler qu'elle-même, quand elle l'a sucé, pardon, c'est dans le texte, elle était mineure. Et que par conséquent, Colin ferait bien d'être plus discret avec ses pudeurs de gazelle.
Oui, effectivement, ça va très loin. D'ailleurs, ça va tellement loin que vous citez François Hollande en faisant un personnage pas très sympathique.
Non, pas du tout. C'est qu'en fait, elle dit...
qu'il est chaud.
À te taire en parlant, tu rappelles un peu l'ancien président qui, discourant comme on s'écrase, avalait la fin de ses phrases. Je ne sais plus comment je le dis, etc. Viens-tu... Et c'est vrai que Colin entend à ce moment-là qu'on vient de le comparer à François Hollande, ce qui est terrible. Donc il se redresse, si vous voulez, avec la mine de celui qui vient de subir implicitement une offense majeure.
Et puis, il y a une nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a le commentaire d'un spectateur dans la salle, là aussi c'est dans l'air du temps, c'est un spectateur qui commente ce qui se passe sur scène. Ça s'est passé aux Trois Baudets pour la première fois avec Robert Lamoureux qui débutait, dans une revue qui s'appelait Sans Issue, il était dans la salle, assis, et il montait sur scène en se plaignant à Francis Blanche, et il faisait un numéro génial.
Voilà. Évidemment. Et puis Pierre Rendelot quand même a inventé ça, hein. Donc c'était pas une trouvaille, mais j'avais besoin d'un spectateur très con qui vint à la fin de la pièce faire la morale à la femme en expliquant que c'est pour son bien. J'ai une grande prédilection parmi les personnages que j'aime caricaturer, tourner en dérision désormais, et que vraiment je renonce à convaincre parce que c'est peine perdue. Il y a la figure de cette modalité très particulière de la sottise qui consiste à être, un, convaincu que la culture en rend intelligent, deux, convaincu que les bonnes intentions suffisent à faire du bien, et trois, convaincu qu'en expliquant la vie à une femme, on va lutter contre le mansplaining. Et ces trois tendances réunies sous la forme d'un seul connard dans la pièce en faisaient un personnage, je dois dire, assez drôle à peindre.
C'est-à-dire que c'est à la fois le philosophe et l'observateur de la société qui écrit cette pièce.
Bah, je suis comme tout le monde. J'ai un épiderme, mais comme tout le monde, il est sensible et il réagit différemment à des agressions. Je vis comme une agression la sottise militante de certains de mes semblables, oui.
Oui, et il y a du boulot de ce côté-là.
C'est du boulot, c'est peine perdue. Ouais. Mais c'est pas une raison pour pas le faire.
Alors, c'est une pièce donc qui est publiée en livre. Peut-être qu'elle sera un jour créée à la scène.
Inch'Allah.
Vous avez envie de le faire ?
J'ai envie de le faire. Je l'ai écrite en voulant la mettre en scène, en l'imaginant. Donc je voudrais la mettre en scène, je voudrais prendre mon temps et le faire proprement, mais j'ai tout à fait ça en tête, oui.
Oui, et la mise en scène aussi, c'est un nouveau métier pour vous ?
C'est un tout à fait nouveau métier. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas, dans ces cas-là, être seul à la manœuvre. Je pense que je serais assisté de quelqu'un de plus compétent que moi, mais je voudrais savoir jusqu'où j'arriverai à donner le jour à ce que j'ai en tête.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite. En attendant de la voir sur scène, il faut lire cette École des Dames aux éditions d'Observatoire, qui est à la fois...
C'est un bonheur de parler avec vous, Jacques, vraiment.
Et réciproquement. Vous revenez quand vous voulez sur Sud Radio,
merci.
Car comme vous, nous parlons vrai.
Ben, c'est vrai. Oui, alors j'ai beaucoup aimé ce slogan, parce que c'est un slogan intéressant. Vous faites de vrai un adverbe,
oui.
Ce qui est bizarre. Hein. Oui. Et pourtant, en général, c'est un adjectif. Mais c'est très périlleux et ça peut être à double tranchant.
Et ben, pour l'instant, on est du bon côté.
Ici, tout va bien.
Continuons. Continuons comme ça. Merci Raphaël Toven. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.